Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut le gang! Encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, c'est le fun. 556e. Ben oui, on est rendu là. 556 dans la jungle des affaires. Ouf! C'est beaucoup. Je me rappelle des fois quand je comptais 37, 49 avec mon amie Valérie qui était ma co-animatrice à l'époque, que je salue, qui est venue dernièrement. Ben oui, même si elle habite à Montréal, elle est venue à Québec. Ben oui, ça arrive. C'est le fun, je suis content. J'aime ça. J'aimerais ça qu'elle vienne me voir plus souvent. Mais en tout cas, ça, c'est juste moi qui sais ça. Elle, elle le sait pas. Faudrait que je dise. Puis elle est venue avec son mari. Hey, c'était le fun. Une belle entrevue. Les gens qui vont vouloir écouter une entrevue d'un gars brillant, le fun, que tu le regardes, là, puis tu te dis, c'est impossible, ce gars-là, il me parle en français de Québec, là, de vraiment un vrai Québec comme moi, là, mettons, là. Le gars, il s'appelle Garim Bang. Non, non. La oui, famille Bang. Moi, je l'agace, c'est comment je suis clown. Moi, j'ai dit, ton père, c'était Bing. Tu sais, Bing Bang. Anyway. Mais Garim, je le salue, je l'aime au bout. Il nous a donné plein de bons trucs sur le monde des affaires. Ils font de la finance à haut niveau. Alors, puis c'est un gars spectaculaire, super le fun, mais super, tu sais, terre à terre, relax, pas prétentieux. Mais tabarnouche, il y a du bagage dans ce gars-là. Garim Bang, je vous invite à aller voir ça. Dans la jungle des affaires, aujourd'hui, ben Caro, t'es encore là?
Hey, j'ai dormi ici.
T'as dormi ici, en dessous de la table, t'étais couchée.
Hey oui, je suis contente d'être là encore, puis avec un invité aujourd'hui, incroyable. Why? Aujourd'hui, là, je suis dans la siège de la groupie.
Ben
là.
Oui, c'est le fun.
Ouais, je suis très heureuse.
J'aime ça parce qu'en plus, on fait du réseautage, parce que là, tu vas connaître notre invité.
Exactement.
Notre invité va te connaître. Tu sais, c'est vraiment ça, là.
Oui.
Hein? C'est du réseautage. Du vrai réseautage. Il y a un bon livre là-dessus, hein?
Oui, le tien.
Non, ben le gars, là, chose.
Oui, Régent Gauthier.
Oui. Dans la jungle du réseautage. Quel bon livre. En parlant de livres, on va en parler encore aujourd'hui, parce que là, moi, j'ai eu un beau cadeau en rentrant. Mais ça, il met beaucoup mon livre. Puis ben, tu vois qu'il y a de l'ouvrage, là, là-dedans.
Oh my God.
Moi, je t'ai pondu ça, moi, une nuit et demie, c'est fini.
Non, j'ai l'impression que notre invité, il y a pas mal plus de mille au galon dans la création de son livre. Puis en plus, il voyage à travers le monde,
ouais.
Son livre.
Blaise Dubois qui est avec nous. Salut, Blaise.
Salut, Régent. Bonjour, Caroline.
Ça fait plaisir.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci. Je suis juste un peu décalage horaire, mais à part ça, ça va très bien.
Ouais, t'aurais pu dire non. Tu sais, t'aurais pu dire...
Oui,
oh,
c'est rare de que ça va mal. J'arrive de l'Europe, là, j'étais... on avait le congrès de la Clinique du coureur à Lyon. Un gros congrès, 400 personnes. C'était bien le fun. C'était vraiment cool.
Puis à
avec
Lyon?
Toute l'équipe. Oui, à Lyon, c'était super.
T'as pas pensé de m'inviter? Lyon, jungle, tu sais?
Ouais,
Oh my God.
OK. Non, non. Quoi?
Ah non, mais écoute, t'es rendu loin, là. Ah, non, tu vas plus vite
attends,
que moi.
Non, non, mais tu sais que c'est mon animal préféré. Ah. Le lion. Okay, parce que le lion, il y a une histoire en arrière du lion. La ville de Lyon, il y a une histoire aussi, mais je veux dire, le lion, l'animal, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le roi de la jungle. Savais-tu que le lion, il parle 16 langues?
Non.
Ah, vois-tu?
Donc, hein? C'est moins niaiseux, ça.
Ah, mais c'est pas moi qui l'ai dit, là.
Oh my God.
Blaise, écoute, on va parler d'entraînement, on va parler de santé, on va parler de business, on va parler de plein d'affaires avec toi. Mais nous autres, on veut savoir, le petit, là, quand il était petit, Blaise, c'était qui, ça, ce gars-là? Vient de où? Comment ça marche? On part loin, nous autres, là. L'engin des affaires, on veut tout savoir.
OK. Mais là, vous êtes prêts, là, bien assis, parce que c'est un peu spécial.
On a juste une heure, là.
Ouais.
OK.
OK. Fait que, écoute, je vais commencer l'histoire en Suisse, parce que je suis Suisse d'origine.
Ah oui?
Immigré au lac Saint-Jean, à Ébarville.
Ah, que c'est bon, j'aime
ça. À l'âge de 10 ans. Choc culturel,
ben
réapprend
oui.
un deuxième langage qui est le québécois.
Oui.
Et
c'est vrai que c'est pas
avec
facile.
Les lolos.
Avec les lolos. Non, mais je te jure, au début, je ne comprenais mais absolument rien de ce que les professeurs disaient.
Ben non.
Ça m'a pris à peu près 2 mois, là, puis après ça, c'était correct. et je suis devenu bilingue là, assez vite.
Bilingue.
Bilingue français, français-québécois.
Exactement. fait que le début de l'histoire, c'est en Suisse, en fin de compte, de deux parents bohèmes, artistes. Mon père est artiste peintre, ma mère a fait toutes sortes d'affaires. Et puis, on vit dans une maison dans les Franches-Montagnes, à Sceaux. C'est un petit village de 40 habitants. Et on est dans une maison où il n'y a pas d'eau chaude. Les toilettes sont dehors, mais j'ai des super souvenirs de ma jeunesse un peu particulière. Je vais à l'école dans ce village-là où on est 7 de la première à la 9e année, tous dans la même classe. Donc, on dirait qu'on retourne en 1800 quelque chose, mais c'était pas, il n'y a pas si longtemps, en fin de compte.
Oui, parce que là, tu nous dirais quasiment ton âge.
C'est ça. Et là, finalement, à un moment donné, ma mère m'annonce qu'on partirait au Québec sur une ferme avec cousins, cousines, oncles et tantes, deux familles. Et finalement, on a immigré au Lac-Saint-Jean et j'ai grandi sur la ferme au Lac-Saint-Jean et la ferme Lehmann, qui font du fromage, le Kenogami, le Valbert. C'est des fromages qu'ont gagné, fromage canadien de l'année il y a quelques années.
Fromage québécois, c'est les meilleurs.
Ils sont pas mal bons, en tout cas. Oui. Ouais. C'est un mélange de Suisse et de Québécois, fait que c'est du raffiné, mais c'est du très, très bon. Et voilà. Ça, c'est l'histoire de jeunesse, de blague. Je sais pas si vous voulez que j'aille plus loin encore, là.
Ben, papa, maman, entrepreneur?
Pas du tout, absolument pas. En fin de compte, c'est des bohèmes artistes intellectuels, mais vraiment pas entrepreneurs. Quoique mon père était, avait son entreprise, il faisait de la peinture et il était graphiste aussi. Donc
il vendait ses toiles.
Il vendait ses toiles et il faisait aussi du graphisme régulier là, pour arrondir sa peinture. Et ma mère, elle a fait à peu près tous les métiers du monde, à traire les vaches à Héberville, à inséminer des orchidées et à faire plein d'autres choses. Mais c'était des parents, j'avais des parents vraiment bohèmes artistes. Là.
Puis est-ce que tu avais des frères, des sœurs?
Alors moi, j'ai un frère qui a 2 ans plus jeune que moi.
Un petit frère.
Et qui lui aussi est un artiste. Il est devenu comédien. Après ça, il est allé à l'American Film Institute à Los Angeles pour devenir réalisateur. Puis là, il fait de la réalisation. Tristan Dubois, il fait de la réalisation un peu partout. Il a fait des films, des vidéos, des affaires, de tout
Parce que réalisateur, tu sais, moi, j'ai appris ça dernièrement, puis tu me corrigeras, peut-être tu le sais aussi, mais moi, j'ai appris ça d'un ami qui a pris un cours de cinéma justement à Hollywood, en Californie. Dans ma tête, un réalisateur, c'était le boss. Là, c'était... là il m'expliquait, oui, peut-être, à certains points, mais ça reste que producteur, c'est l'argent.
Ouais.
Réalisateur, c'est prendre les idées puis les mettre en exécution.
Exactement.
Alors que le scénariste, c'est lui qui a pondu l'idée. Là. Alors là,
exact.
Fait que là, il y a une échelle là-dedans, pareil. Fait que quand tu te trompes, tu sais, moi, ça... Je suis le genre de gars tu sais, qui est coupé, on recommence là, parce qu'il fait le con. Mais là, ça coûte de l'argent, ça, au producteur. Puis là, le réalisateur, lui, il s'attire les cheveux dessus la tête parce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens, ce gars-là, comment c'est un clown. Alors, mais j'ai tout appris ça. Fait que ton frère est réalisateur.
Ouais. Il a fait quelques longs métrages. Il travaille beaucoup avec Biz des Locolocas.
Oui.
Il a fait. Et puis, toutes sortes de choses. Fait que voilà.
Il y a
la graine d'artiste de la famille.
Puis qu'est-ce qui t'a amené dans la physiothérapie, la course à pied?
Moi, j'ai commencé à courir quand j'étais tout jeune.
Quand tu faisais un mauvais coup?
Non, mais effectivement, quand j'étais jeune, on avait beaucoup de liberté. Ça fait qu'on sortait dehors. Moi, j'allais courir toute la journée. Quand j'avais faim, je rentrais à la maison. Puis ma mère était très, très libre et... laxiste sur ma vie. Fait que moi, je partais dans la forêt, elle savait pas où j'étais, puis je revenais quand j'avais faim, puis tout allait bien. Puis un jour, j'avais 7 ans, je suis parti voir ma grand-mère qui était à 7 km dans quelques villages plus loin, et c'était la première fois que j'ai couru, puis j'ai eu ce plaisir d'être essoufflé, de sentir cette sensation de je suis essoufflé, mais ça avance, ça va vite et tout. Et après ça, t'arrives au Québec à 10 ans. Au Québec, on a des Olympiades. Tu gagnes le 1000 mètres, fait que les filles sont contentes. Puis après ça, tu vas au championnat provincial, puis tu fais ta première blonde. Puis fait que la course à pied a été comme un petit processus, en fin de compte,
entre
l'athlétisme, ouais, c'est ça, de cruising un peu. Mais
de relationnel.
Exactement. Ah oui, tu te définis un peu. Moi, j'étais un coureur de 800 mètres. On faisait les cross l'automne, les cross country, un petit peu plus long. Mais moi, j'étais un coureur de plus court. Et jusqu'à l'université, en fin de compte, j'ai fait de la course et du soccer. Fait que moi, c'était mes deux sports. Puis je me suis assez blessé, entre autres au soccer, pour être en contact avec la physiothérapie puis dire « Ah, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse ». Puis je suis devenu physiothérapeute, étudié à l'Université Laval, à la Faculté de médecine. Et puis, voilà.
Là, tu es chez PCM.
Oui.
Co-fondateur.
Oui, bien c'est ça, ça fait longtemps. Là, vous avez lancé ça.
Co-fondateur de la clinique du coureur, mais je ne suis pas le fondateur de PCN, mais moi, j'ai commencé à travailler dès ma sortie de l'université. Ça fait déjà un bon moment. Je ne vous dirai pas exactement combien de temps, mais c'est presque 26 ans. J'ai gradué à l'Université Laval. Je commence à travailler tout de suite à PCN avec Gilles Courchêne, Richard Normand.
Oui, Gilles l'acteur. Comment il s'appelle donc?
Cloney.
Hein? George Cloney. Exact. T'aimes-tu George Cloney?
J'adore.
Ben, Gilles, il ressemble au Dougoudou.
Mais je le connais pas.
Il pourrait signer des autographes.
Ah.
Ouais, que... bon, OK.
C'est pas sûr.
On le salue, Gilles.
Fait que les gars, en fin de compte, me font confiance comme physio. Je suis engagé à PCN. Puis assez rapidement, je deviens propriétaire d'une des cliniques, de deux, puis après ça, de l'ensemble du groupe. Et Richard va, à un moment donné, il y a quelques années, juste pendant la COVID, partir avec sa clinique, vendre ses parts dans PCN. Et Gilles va prendre sa retraite l'année passée. Donc, les deux fondateurs, en fin de compte, sont partis de PCN. Mais on est tout un groupe de leaders pour gérer cette entreprise-là. Et maintenant, on a 14 cliniques, 240 employés. Ça va super bien. Il y a un leadership affranchi. On a aboli les postes de pouvoir. On a dissous le CA. On a fait quelque chose de très horizontal. Entreprise libérée. Donc, on a fait quelque chose de très... Fait que je pourrais vous en reparler si vous voulez, mais effectivement.
C'est juste le concept d'entreprise libérée est sujet d'un podcast, là. De comment on peut travailler en silo, puis le transférer finalement après ça, là, le transférer vers une entreprise libérée où on enlève justement tous ces silos-là, puis que la responsabilisation, l'imputabilité des rôles de chacun est encore plus, plus valorisée.
Oui.
Bien, à l'horizontale, hein, c'est le fun parce que. Chacun est comme maître de son petit mandat. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Un peu comme ici, c'est ce qu'on vit dans l'équipe. Chacun a des mandats, mais ils font... Il n'y a pas de patron là, qui dit « Je veux ça, fais-moi ça. » Tu sais, c'est le fun.
Dans les recherches que j'ai fait, moi, Blaise, sur toi, ta carrière et tout ça, j'en reviens pas le nombre de chapeaux que tu portes au niveau professionnel, de tout ce qui, finalement, les cordes à ton arc, si je peux dire. Là. Ouais. J'aimerais ça qu'on fasse le tour parce qu'on a parlé rapidement de PCN, on a parlé de la physio, tu nous as parlé de la clinique du coureur, puis tu es le fondateur. Fait que ça, ben, je pense que c'est la première question. Comment est née la clinique du coureur, puis pourquoi?
Oui. Alors, en 2005, moi, je gradue en 98. Jusqu'à 2005, je donne des conférences à des groupes de médecins, des étudiants, des groupes de course à pied. Et en 2005, je construis le premier cours de 3 jours pour les professionnels de la santé sur comment prévenir et traiter les pathologies de l'appareil locomoteur chez le coureur. Donc, comment on règle nos bobos, puis comment on fait pour ne pas se blesser, puis voilà. Et je construis un cours, en fin de compte, qui change vraiment la pratique des cliniciens, qui a vraiment des choses très innovantes à l'intérieur. Puis là, je me dis, ouais, là, il y a quelque chose à faire avec ça. Là, moi, je suis physio temps plein. En parallèle, je fais ce cours-là. Je l'enseigne les fins de semaine. Et puis, dans le temps, en fin de compte, j'ai décidé à un moment donné de prendre 3 mois sabbatiques, partir dans l'Ouest canadien avec la famille. Mon garçon, qui est en 4e année de primaire, que j'ai eu pendant que j'étais à l'université. Ma blonde, qui est enceinte, et ma fille, qui a 1 an et demi. Donc, on part dans une famille d'accueil pour apprendre l'anglais, parce que je suis très mauvais en anglais. Je suis toujours très mauvais, mais j'enseigne quand même en anglais. Je fais le tour du monde, je vais partout avec mon anglais. Maintenant. Je suis moins mauvais maintenant, mais il reste quand même que ce n'est pas ma langue natale, puis que j'ai toujours eu de la difficulté avec les langues. Mais bref, on part 3 mois sabbatiques, et pendant ces 3 mois-là, je vais à l'école le matin. Ma blonde garde les enfants l'après-midi. On switch. C'est elle qui va à l'école le reste du temps. Et finalement, pendant 3 mois, je ponds la clinique du coureur, le site web, l'idée, le graphisme, l'image de marque, la vision, etc. Et je reviens au Québec et les gars, et Richard accepte que je parte mon projet, en fin de compte, en parallèle. Et là, je vais fonder la clinique du coureur qui maintenant a 70 collaborateurs, enseigne dans 15 pays dans le monde. On est le leader des bonnes pratiques en course à pied avec une veille scientifique avec plusieurs, dont principalement Jean-François Esculier, mais plusieurs PhD qui travaillent là-dessus. Donc, on a construit quelque chose de vraiment intéressant.
Bien, moi, ça me fascine parce que tu écris sur ton site, entre autres, que notre objectif, c'est d'être la référence mondiale en prévention des blessures, en course à pied, en faisant la promotion des meilleures pratiques relatives à la santé des coureurs.
Ouais.
Moi, là, quand j'ai lu ça, là, j'ai arrêté à être la référence mondiale. Comment on devient la référence mondiale?
Ben, tout est relatif. On peut se donner les titres qu'on veut, hein, mais tu sais, on est dans quelque chose de tellement pointu que nos compétiteurs ne sont pas nombreux. Là, tu sais, je pourrais te nommer, par exemple, une 10 à 15 groupes de formation continue qui ont des spécialités course à pied, diagnostic membre inférieur. Et ben, clairement, on est le plus gros. Clairement, on est ceux qui ont le plus. On enseigne en 6 langues. Maintenant, 7 bientôt. Je pars en Chine dans une semaine. Donc, on enseigne en toutes sortes de langues et en fin de compte, on est vraiment les leaders maintenant de façon claire. Ça, c'est ce qu'on avait écrit au début quand on ne l'était pas encore. Maintenant, c'est clair qu'on l'est.
Ouais, bravo.
Hey, bravo, ça, pis, j'aime ça, ça.
Ce que je trouve intéressant, moi, c'est que les babines suivent les bottines.
Les bottines suivent les babines.
Bon, ben, ouais. Parce que là, on parle de course à pied. Fait que c'est pour ça que je les virais.
Non,
ça ne marche pas. Mais tout ce que vous faites est aligné avec cette mission-là, avec ce grand plan-là. Est-ce que je me trompe?
Non, effectivement. En fait, on vient de faire un gros congrès en Europe sur la course à pied qui a drainé tous les francophones de toute l'Europe, à peu près partout. Tu parlais des chapeaux tout à l'heure. La clinique du coureur est une grosse structure qui s'adresse aux professionnels de la santé. Mais on a créé une start-up il y a 2 ans maintenant qui est le coaching du coureur où on coach des gens à travers la structure. On a créé un OBNL qui organise des courses au lac Beauport, entre autres, qui est le trail de la clinique du coureur et le 5 km route. Un OBNL qui ramasse des fonds après ça pour des causes philanthropiques, là, entre autres les enfants défavorisés qui viennent aux saisonniers faire des camps d'entraînement, des camps de toutes sortes. On écrit un livre qui est en lien aussi avec la course à pied. On est une équipe de 12 à travers l'international, mais après ça, on a une équipe en France, en Italie, en Espagne. On a quelqu'un qui est un leader au Japon, en Chine. On en a à peu près partout et qui vont, en fin de compte, transmettre toutes ces informations qu'on met de l'avant avec les bonnes pratiques, en fin de compte. On a une veille systématique de la littérature. On synthétise tout ça dans quelque chose qui est digeste et pour le coureur et pour le professionnel de la santé. Et après ça, ben, on enseigne un peu partout, en ligne comme en présentiel. Voilà.
Parce que tu es enseignant en médecine à l'université.
Alors, j'ai enseigné pendant 4 ans en médecine, un cours spécialisé, membre inférieur, un cours précis. J'enseigne maintenant en physiothérapie. Mais j'enseigne surtout des formations post-graduées pour les professionnels de la santé. C'est-à-dire que je vais dans différents pays. Cet automne, je vais en Chine, au Japon, en Grèce. J'arrive de la France, on était en Norvège. L'objectif, c'est d'enseigner aux professionnels de la santé qui sont déjà des professionnels, qui ont déjà des compétences. C'est quoi les meilleures pratiques pour traiter les coureurs, les diagnostiquer, prévenir les blessures et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup ces cours post-gradués-là qui animent la clinique du coureur et qui sont le core business de cette petite entreprise. Hein. On parle de 2 à 3 millions de chiffres d'affaires. C'est pas très grand, mais en fin de compte, on a une portée qui est très internationale.
Mais vous faites une différence.
Certainement. Ah oui, ça, c'est pour les professionnels de la santé, j'espère. En plus, on a développé des outils innovant, en fin de compte, pour les professionnels de la santé, ça ne vous dira rien, mais tu sais, on a fait la quantification du stress mécanique, le peace and love dans le traitement des blessures traumatiques. Si tu fais une entorse de cheville, les professionnels de la santé, maintenant, ont des protocoles que c'est nous qui avons construits, qui ont été publiés dans des revues internationales et qui sont appliqués dans plein d'universités à travers le monde. Donc, oui, on fait la différence. On fait plein de choses qui font en sorte que les gens, en fin de compte, les professionnels de la santé changent leurs pratiques et les coureurs sont plus informés avec nos conférences, notre livre et ainsi de suite.
Et moins de blessures, donc plus de bonheur.
On espère. Ben, en même temps, moi, je suis propriétaire de clinique de physio. Ben il s'en blesse en masse, je peux te dire qu'on en voit encore beaucoup.
C'est ça, j'allais dire. Là. Si on veut qu'il y aille en physio, il faut qu'il se blesse.
Mais ben, peut-être non? Pas juste en course à pied, ils peuvent juste
se blesser. On a en masse de job.
Oui,
oui. Hein?
Ouais. Non, mais est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Il faut être blessé pour aller en physio?
Pas nécessairement. Tu peux décider d'aller voir un professionnel puis dire, écoute, je veux pas me blesser, qu'est-ce que je fais? Mm-hmm. Mais je vais te dire, je vais t'avouer que 90. L'homme étant l'homme, 98% des gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ne peuvent plus courir. C'est parce qu'ils sont blessés, ils peuvent plus être fonctionnels, faire ce qu'ils aiment faire. Et à partir de ce moment-là, ils viennent nous voir puis là, on trouve des solutions avec eux.
Puis comment tu fais pour concilier tout ce que tu viens de nommer, là, les voyages, les chapeaux et autres avec une famille de 4 enfants et je pense que tu es grand-papa aussi.
Ah oui, en plus, ça, c'est pas drôle. Ouais, je suis grand-père d'une petite fille.
Tu es un jeune grand-papa.
Quand même, très jeune grand-papa, très, très jeune grand-papa. En fait, je suis grand-papa d'une petite fille qui a 5 ans et de mon garçon Dimitri qui a 26 ans. qui l'a eu un peu jeune, là. Il aurait pu attendre un petit peu, là, mais...
fait que, salut Dimitri, on le salue, Dimitri.
Et j'ai trois filles aussi qui sont encore chez nous à la maison. Dimitri, lui, il travaille, il a sa job, ses affaires, mais mes trois filles, Anna Soleil, Noalie et Soli, sont chez nous encore. Anna Soleil a 17 ans, 15 ans Noalie et 10 ans Soli. Et j'ai des filles super indépendantes qui font leur vie, qui sont brillantes, en santé, sportives. Fait que tu sais, je suis zéro inquiet. Et bien évidemment, j'ai le support de ma blonde Isabelle qui, en fin de compte, fait en sorte que ma vie est beaucoup plus simple, facile et efficace parce qu'elle est dans ma vie. Là, tu sais, fait que voilà. Fait que tu sais comment je jongle avec tout ça? Ben, il faut être super bien organisé, il faut être en santé puis en forme. Je me garde mon heure de sport et de course à pied tous les jours. J'essaye de dormir comme il faut. Puis après ça, ben, j'ai plein de gens que j'aime autour de moi qui m'aident à réaliser mes rêves puis à aller de l'avant, puis etc.
Facile, c'est ça la recette?
On va la suivre.
Qu'est-ce qu'on disait nous autres tantôt? Chanceux?
Ah, mais non, je suis pas d'accord.
On
n'embarque pas dans ça, hey. Mais oui, en effet. Hey. Non, c'est...
Il y a de l'ouvrage là, en arrière de ça.
Il y a de l'expérience et de la sagesse. Non,
parce que tantôt, Blaise, on parlait avec... Oui, c'est ça, l'expérience et la sagesse. Tantôt, on parlait avec notre invité, justement, on parlait de la chance. Des gens, des fois, vont dire, oh, chanceux, toi, tu parles trois langues. Tu sais, chanceux, toi, tu joues du piano. Hein? T'sais, chanceux, toi,
tu voyages à travers le monde.
Ben oui, allô, c'est parce que c'est pas de la chance, c'est qu'il y a de l'ouvrage en arrière. C'est quasiment insultant de se faire dire ça, chanceux, hein?
Ben, je sais pas, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de choses, mais on crée notre chance, peut-être qu'on pourrait dire, peut-être ça, mais je suis chanceux dans la vie, là. Moi, je fais partie des personnes en santé, avec du monde autour qui m'aime.
Qui croit en toi.
Qui croit en moi.
Mais t'es sûrement aussi, t'es allé provoquer cette chance-là, c'est-à-dire que si t'étais pas une personne aimable ou rassembleur ou whatever, ben les gens seraient peut-être pas autour de toi.
C'est sûr.
Puis si tu fumais trois paquets de cigarettes par jour, puis tu mangeais beaucoup de bois de cochonnerie puis de dessert, ben peut-être que tu seras pas aussi en santé. Fait que oui, il y a de la chance. T'sais, c'est sûr, quand on dit on est chanceux, mais à un moment donné, il y a aussi le fait que...
C'est un mode de vie.
Oui, c'est un mode de vie. Exact.
Puis comment tu développes tes collaborations? Parce que j'ai l'impression, là, tu disais, j'ai plein de gens autour de moi qui m'accompagnent dans la réalisation de mes rêves. Donc, je présume qu'il y en a plusieurs. Je vais te poser la question, quels sont tes rêves qui n'ont pas été réalisés encore? Mais comment tu développes tes collaborations?
Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, tu sais, quand je dis réaliser ses rêves, quand tu es entrepreneur, tu as une vision, tu as quelque chose qui t'anime, tu as quelque chose qui te nourrit, là, puis qui t'amène à vouloir progresser. Puis, tu sais, moi, de créer quelque chose qui change la pratique des professionnels de la santé autour de la course à pied, de donner des clés aux coureurs pour qu'ils puissent moins se blesser, être plus en santé, puis avoir le goût de s'entraîner, ça faisait partie des choses qui, moi, m'animaient. Et là, au début, ben, t'es tout seul. Ma blonde, qui est enseignante, notre première fille, Anna Soleil, et décide après de ne pas retourner à l'école puis de dire, ben, je vais t'aider parce que là, tu débordes, puis on va travailler à deux, puis à un moment donné, à trois, à quatre, à cinq. Et là, ce que ça fait finalement, c'est que là, tu as toute une équipe. Mais tu sais, quand on est deux puis qu'on dit, OK, là, on a besoin d'aide, et que là, on a dans notre environnement quelqu'un comme l'Emmanuel, qui est une personne géniale, on se dit, ben, ça serait cool de travailler avec. Puis, en fin de compte, c'est là que tu sélectionnes un peu le team player, la personne je ne sais pas si vous connaissez Lencioni, là, mais qui parle de la personne qui est intelligente, qui est smart, qui est hungry, qui a faim, qui veut, qui est proactive, et puis qui est humble, qui a l'humilité, en fin de compte, de travailler pour l'équipe et des fois de...
Ça devient un vecteur de croissance.
Exactement. Et là, ben, on s'enrichit d'une nouvelle personne dans l'équipe qu'au début fait à peu près tout parce que tu es trois, comme toi, tu faisais tout au début, mais à un moment donné, tu te spécialises, puis à un moment donné, et chaque fois que tu rentres quelqu'un dans l'équipe, ben, tu t'assures, en fin de compte, qu'elle fit avec cette équipe-là. Donc, on a créé, par exemple, un outil qui est le soft skill fitting pour s'assurer que les gens qui rentrent dans l'équipe, ben, on les, ils soient bien intégrés et ainsi de suite.
Et que les valeurs soient les mêmes.
Exactement. Et à PCN, on a tout un système de onboarding de chacune des personnes qu'on va engager. Et voilà. Et tu les attires, en fin de compte, avec ta culture, avec tes valeurs, avec ton branding, ce que tu fais finalement. Et dans un monde où les ressources humaines sont de plus en plus difficiles à aller chercher, en fin de compte, ça devient essentiel, en fin de compte, d'avoir justement une culture particulière qui va attirer, en fin de compte, la nouvelle génération et l'ensemble des gens qui ont envie de travailler dans une entreprise que nous, on appelle affranchie, qui est comme un peu libérée, mais qui effectivement est... Fait comment on va chercher ces gens-là? Ben, je te dirais maintenant, par exemple, à la Clinique du coureur, on peut faire un dépôt de candidature spontanée et on a beaucoup plus de noms que de possibles de jobs à donner. Donc, il y a plein de gens qui attendent qu'on ait des postes qui ouvrent, etc. Puis c'est la game, mais voilà. Donc,
fait qu'il y a une liste d'attente pour travailler actuellement dans vos organisations.
Ben oui. On est ça en 2023, là?
Ah oui.
OK, dans la jungle des
affaires.
Ça existe encore. Non, c'est parce qu'on reçoit 80% des entrepreneurs qui viennent, Blaise. Il nous dit, la première chose, c'est l'ancienne. Il y a été un temps où est-ce que l'entrepreneur manquait d'argent. Ensuite de ça, il y a eu l'ère où est-ce que l'entrepreneur manquait de temps. Puis aujourd'hui, l'entrepreneur manque de bras. Hein, manque de main-d'œuvre.
C'est clair.
C'est bon, en tout cas.
Mais tu sais, je te donne l'exemple de PCN. La Clinique du Coeur, c'est même, je dirais, plus facile. Puis notre branding est tellement fort, en fin de compte, qu'il y a plein de gens qui nous voient de l'extérieur, qui se demandent même qu'est-ce qu'on fait, mais ils veulent venir travailler chez nous, là, tu sais. Avec PCN, on engage des physiothérapeutes, des professionnels. C'est un petit peu plus compliqué quand même. Tu sais, il y a un nombre de physios au Québec qui est limité.
Certification.
Mais tu sais, on est capable d'engager 10 à 20 professionnels à chaque année. On est probablement un des employeurs qui en engage le plus parce qu'on a une image de marque très forte à Québec. On a une culture affranchie particulière qui attire les jeunes et parce qu'on s'implique, on s'expose, on a un marketing de marque qui est fort.
Ça fait partie.
Oui.
C'est ça, vous êtes vraiment dynamique, vous vous faites voir.
Exactement. Oh, pas le choix. Tu peux avoir le meilleur des produits au monde, si tu ne te fais pas voir, il ne vaut rien. Fait que tu sais, c'est comme, ça fait partie de la game. Là. Il faut s'exposer, il faut pouvoir montrer ça.
Il y a raison. Tantôt, on a parlé encore avec la vidéo. C'est niaiseux.
Tu es l'ambassadeur.
T'aimes-tu le lion?
J'adore le lion.
Quand je te dis c'est mon animal préféré, là, c'est pas des farces.
Vraiment.
Lion. Non, mais...
Je suis un lion, hein, parenthèse.
Oui. Ah,
ben oui.
Ma fille aussi.
Synchronicité.
Mois d'août?
Oui, le 19.
Ah, ma fille, c'est le 20. Ben écoute, ça, je trouve jamais le sujet.
Ça, elle me regarde, elle dit ça, ça, je trouve jamais.
Moi, j'ai, écoute, écrivain, conférencier, organisateur d'événements sportifs. Tu en as parlé tantôt. Tu fais même de la consultation avec Athlétisme Canada.
Oui, j'ai travaillé un bon moment avec eux. Maintenant, j'ai plus le temps, mais j'ai eu la chance de faire le tour du monde avec l'équipe. Fait que je suis allé au Niger, aux Jeux de la francophonie. Je suis allé à Rio juste avant les Olympiques pour les Jeux panaméricains. Je suis allé en Chine, à Shenzhen, pour les championnats du monde universitaires. J'ai fait 6 différents championnats du monde, cross-country, demi-marathon, etc. Et c'était des expériences ultra riches, ponctuelles, hein, des 2 semaines. Avec l'équipe. T'éteins des feux plus que de faire de l'éducation ou de la prévention, mais c'était quand même très enrichissant et très, très le fun. Maintenant, je manque de temps, mais ça a animé ma jeunesse de physio. Ouais.
Je comprends.
Wow. Puis ton rôle là-bas, est-ce que c'était de traiter ou c'était plus en niveau éducatif?
Non,
ou...
on est vraiment, tu sais, tu pars avec l'équipe, je sais pas moi, aux Jeux panaméricains à Rio. T'es une semaine en camp d'entraînement. Déjà, il y en a qui sont blessés, qui ont des petits bobos, que t'essayes de traiter au mieux pour qu'ils puissent faire leur performance. Et puis après ça, ben, c'est la compétition. Puis là, tu suis les athlètes. Tu fais des tapings, tu fais de la thérapie manuelle, tu fais des choses qui sont très court terme. Mm-hmm. Et puis, tu veux pas non plus les perturber dans un moment de compétition. Mais après ça, tu rentres à la maison et tu dis, ouais, là, il manque quelque chose. Si j'avais pu voir cette personne-là un peu plus après ou avant, parce qu'elle retourne à Calgary, elle retourne à Vancouver, donc elle n'est pas nécessairement à Québec. Et là, ben, ça aurait été intéressant de faire un peu de prévention. Et les cours de la Clinique du Coeur vont justement combler cette partie-là.
Wow! C'est une roue complète.
C'est une roue, ils se pluguent entre eux autres. Je veux dire, c'est...
Ben, en fait, nous, on forme les professionnels de la santé qui vont traiter ces athlètes-là. Donc, on espère qu'il y a des meilleures pratiques qui vont s'installer.
Oui.
Là.
Ben ouais. Oui, j'espère.
Moi, on est dans l'entrepreneuriat. Tu es un entrepreneur.
Un athlète entrepreneur.
Un athlète entrepreneur. J'ai le goût de savoir... Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un, un physio, quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, qui veut se partir à son compte, puis avec tout le bagage que tu as, ça serait quoi les meilleurs conseils que tu lui donnerais?
Oh! Alors, la première chose, et c'est ce qu'on fait aussi systématiquement dans nos organisations, autant PCN que la Clinique du Coeur, c'est de trouver son X. Trouver son X, ça veut dire qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, là? Et moi, c'est un exercice que je fais individuellement à chaque année, c'est-à-dire dans quoi je suis bon. Et qu'est-ce que j'aime faire? Et je veux que 60% de mon temps, de ma journée, de ma semaine, soit sur ce X-là.
Ikigai.
C'est très similaire à l'ikigai, parce que là, j'ai deux vecteurs de l'ikigai.
Au lieu de quatre.
Exact. Il y a un troisième qu'on recommande pour les entrepreneurs, qui est comment je crée de la valeur pour l'organisation, qui est le troisième axe. Et donc, comme entrepreneur, ben, tu veux créer de la valeur pour ton organisation puis être encore une fois le plus possible sur ce X-là. Mm-hmm. Et l'ikigai rajoute qu'est-ce qui te rapporte de l'argent finalement. Et moi, je pense que c'est beaucoup une conséquence de ton X. C'est-à-dire, quand tu es sur ta place puis que tu fais ce que tu aimes, à un moment donné, le reste suit. Là, moi, c'est ce que
l'argent
j'ai observé.
Vient après, ben oui.
J'ai observé ça dans ma vie, mais bon. Mais la première chose que je dirais à ce jeune entrepreneur, c'est de dire, trouve ton X. T'sais, c'est quoi vraiment que tu veux faire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, je trouve, être entrepreneur, c'est à la mode un peu. Hein? Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs puis qui jouent à l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? T'sais? Puis être entrepreneur, ben, c'est compliqué. Quand tu es tout seul, ça va. Quand tu es deux, tu as une interaction entre deux individus. Quand tu es trois, tu en as trois. Quand tu es 20, tu en as 190. Donc là, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis le plus grand défi des entrepreneurs, souvent, c'est d'être capable de mobiliser des gens autour de soi pour répondre à ton propre rêve, là. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des moteurs pour faire évoluer l'organisation. Et ben là, tu sors de tu enlèves tes lunettes roses, là, mm-hmm. quand tu es en interaction avec plein de gens. Puis là, ben
mais c'est d'exprimer plus... leadership, déjà,
oui.
Dans le premier temps, puis de mobiliser les gens.
Exact.
Puis de ramener tout le monde dans le même sens.
Oui, effectivement. Puis tu sais, en fait, ramener tout le monde dans le même sens, ben il y a des entreprises très traditionnelles qui vont dire, OK, il y a celui qui crie en avant pour dire, OK, on donne le coup de rame, puis on est tous ensemble, on est synchrone. Et après ça, ben tu as des entreprises un peu plus affranchies qui vont essayer de donner plus d'autonomie, qui vont faire émerger la compétence, qui vont faire émerger le leadership à l'intérieur de l'organisation pour que les meilleurs prennent les décisions nécessaires à l'organisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une structure hiérarchique décisionnelle avec des postures de président, CEO, boss, etc. Mais on est plus dans une hiérarchie, par exemple, de compétences. C'est-à-dire, c'est qui a la plus grande connaissance et la plus grande expertise, expérience pour pouvoir solutionner différents problèmes. Fait que c'est comme à PCN, puis on fait la même chose à la clinique du coureur, en fin de compte, c'est qu'on a des sphères de leadership, puis les meilleurs répondent à ces sphères de leadership-là, puis tout le monde fait émerger son leadership et prend la place qu'il a besoin d'avoir. Fait que c'est ça. Fait que le jeune entrepreneur, je reviens, ben, je dirais, écoute, trouve ton X, sois passionné, puis ben, clairement, quand tu avances dans une entreprise, tu réalises que tu ne travailles pas 35 heures semaine, tranquille. Ça t'habite longtemps, ça t'habite le soir, ça t'habite. Ouais, c'est ça. Puis ça t'habite quand tu dors le soir, puis tu rêves à ça, puis ça fait partie. Fait que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ben, ça va être lourd, ça va être tough, là, tu sais. Fait que c'est ça.
Puis c'est quoi les valeurs de PCN ou non, valeurs de Blaise Dubois?
Ah, c'est bon, ça, j'aime ça.
Ouais, c'est difficile de définir des valeurs précises, mais je pourrais te donner mon « why mm-hmm. ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime, moi? En fin de compte, individuellement, là, c'est grandir en innovant. Moi, il y a quelque chose qui fait qui me pousse à aller de l'avant, que j'ai envie de grandir là, comme individu, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de prendre le temps de réfléchir pour devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, etc. Et en innovant, en fin de compte, parce que j'ai toujours eu ce désir aussi de faire mieux que l'existant. Donc, de prendre des choses qui existent et dire, OK, comment je peux faire mieux que ça, qu'on appelle l'innovation. Et c'est par ça, entre autres, que ben, j'ai développé des outils qui sont utilisés à la clinique du coureur, qu'on a changé un peu le style managérial et qu'on a fait de l'innovation managériale à PCN, entre autres, en transférant d'une structure très hiérarchique, traditionnelle, avec un CA décisionnel composé de 6 gars, à peu près tous du même âge, qui géraient l'entreprise vers quelque chose qui était beaucoup plus aplati et vers quelque chose où le leadership peut émerger davantage, où on cherche à avoir une meilleure équité dans l'organisation, puis qu'en fin de compte, chacun des individus dans l'organisation puisse répondre aux besoins psychologiques fondamentaux qu'on connaît, qui sont le besoin de compétences, d'autonomie et d'appartenance sociale. Fait qu'en fin de compte, les gens, ces trois facteurs-là animent tout le monde, consciemment ou inconsciemment. Et quand tu fais de la place à dire, ben, je veux que tu fasses émerger ta compétence, là, exprime-nous c'est quoi, dans quoi tu es meilleur, et que tu aies l'autonomie de le faire puis de le faire émerger dans ton organisation, puis que tu aies une appartenance sociale avec le groupe, clairement, tu augmentes le bonheur des employés et le niveau d'intérêt de tout le monde d'aller dans le même sens.
En effet.
Ouais, là, j'ai débordé, suis... j'ai dérapé,
non, mais écoute,
on va partout.
Je suis sans
là.
Mots. Ben, je trouve ça tellement intéressant. Puis, Tu sais, ça m'amène une autre question. De quoi tu es le plus fier?
Je te dirais, c'est les humains autour de moi qui sont... moi, quand les gens autour de moi sont comme heureux, là, puis je pense aux deux entreprises, là, entre autres PCN, je devrais dire trois, là, PCN, la clinique du coureur et le coaching du coureur, puis de voir du monde qui sont mobilisés, contents, qui ont envie de faire des choses, qui ont plein de projets, ça, ça m'allume au bout. Ce que je suis le plus fier aussi, c'est d'avoir réussi à faire la même chose dans ma famille, c'est-à-dire d'avoir des filles et un garçon qui est autonome, qui embrasse la vie, qui sont heureux, qui ils ont peut-être le bonheur facile aussi. Tu sais, c'est des parties aussi génétiques autour de ça, mais clairement, ça me rend très heureux. Ouais.
Puis ton prochain grand rêve, ton prochain projet à réaliser, ça serait quoi?
Alors... Il y a toujours des défis en entrepreneuriat. Il y a des choses qui s'en viennent dans les prochaines années qu'on va restructurer. Exemple, notre équipe France là, qui a besoin d'un peu d'encadrement. Fait que là, c'est un des défis qu'on a. Le COVID était très dur pour la clinique du coureur, entre autres, parce que ben, on donne des cours en présentiel. Fait que vous pouvez imaginer. Fait que là, on est dans un retour vers la prospérité. Fait que là, on fait du développement de marché. Je m'en vais en Chine la semaine prochaine, puis on va voir c'est quoi le potentiel qu'il y a là. Je reviens par le Japon. On va relancer les États-Unis qui a été sur le break pendant 3 ans. Fait que, tu sais, le COVID a été très dur pour la clinique du coureur, beaucoup moins pour PCN. PCN, ça a été même une excellente opportunité, ce COVID-là, pour transformer sa culture, pour redéfinir qui on est. Mais voilà. Donc, il y a plein de défis qui s'en viennent. Puis, tu sais, je suis vieux, là. Tu sais, fait que après ça, moi, j'ai des défis aussi personnels.
On te donnerait à peine 35 ans.
Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. 35, ça me va très bien.
Oui.
Mais là-dessus, oui.
Mais là-dessus, j'avais vraiment 35
pour
ans.
Vrai? Ça,
non, ah, peut-être
non,
pas, mais.
C'est bon.
Peut-être pas autant, mais. Ouais.
Parce que moi, j'ai l'air d'un gars qui t'écoute pas, là, mais je suis en train de tout passer ton. Je suis en train de screener parce que Caro a des super belles questions. Fait que, tu sais, c'est le fun, moi, c'est de la musique.
On laisse aller dans ça, là.
Ben, je comprends. Ouais.
Moi, comme je vous l'ai dit, je suis la groupie aujourd'hui, là.
Mais. Pour finir, ce que je disais en fin de compte, là, j'ai une vie trépidante, très active. Je voyage beaucoup trop. Clairement, j'ai envie de me déposer un petit peu plus puis d'être un petit peu plus à Québec. Puis je suis dans une relance post-COVID, en fin de compte, où on essaye de relancer les marchés, etc., et où j'ai un rôle important par rapport, justement, à ma création de valeur pour l'organisation. Mais c'est sûr qu'on organise des formations, par exemple, au Québec, où les gens de la France viennent au Québec se former pendant 10 jours, les 2.0 de la clinique du coureur. Ben ça, je suis chez nous pendant toute la semaine. Je vois mes enfants, je vois ma blonde. Puis le reste du temps, ben, j'anime des groupes. C'est bien le fun. Fait que, tu sais, je sens déjà que j'ai besoin de tranquillement venir à quelque chose qui va être un petit peu moins...
prenant.
Ouais, prenant, funky, voyage constamment, décalage horaire. Là, je suis arrivé il y a 2 jours. Là, j'étais encore
ouais,
un peu...
Ouais.
Puis... podcast?
En version podcast?
Ben...
La clinique du coureur en version
ben,
podcast?
Je sais pas.
Ça prendrait de la vidéo.
Pardon?
Ça prend de la vidéo.
Mais oui, ça prend de la vidéo.
Pour les
mais...
techniques de course.
Ouais. Mais alors, je vais vous faire une confidence. On a engagé Olivier Roy-Baillargeon en 2020, début 2020, pour démarrer le podcast La Clinique du coureur.
Ah oui?
Le COVID est arrivé.
Ben.
Puis depuis ce temps-là, Olivier, il fait tout sauf un podcast. Fait que ça a été notre... il nous a aidé à faire des e-learning, à créer... Parce que, tu sais, ben, il y a aussi toujours la question de création de richesse dans une organisation.
Ben,
tu sais,
oui,
si tu engages quelqu'un, il faut que...
De la formation en ligne payante, c'est
voilà,
bon pour les entreprises.
C'est ça, tu sais. Fait que là, on a réajusté un peu nos affaires et Olivier est notre main à tout faire dans l'organisation. Puis en fin de compte, ben, on n'a toujours pas de podcast. Mais là... L'équipe semble avoir réfléchi à une version très courte des formats 5 minutes pour le coaching du coureur, pour les coureurs spécifiquement. Et les marcheurs aussi, Régent. Ouais.
Ben oui, parce que moi, je ne peux plus courir.
Oui, okay. Ça, c'est une histoire, mais en tout cas, on en reparlera après. Ouais.
Hey, j'ai le goût de prendre un angle différent dans l'entrevue aujourd'hui, là, mais la course à pied, pieds nus. J'ai le goût de savoir un peu, parce que là, j'ai vu que tu avais une chaussure sur ton site,
mm-hmm.
dans ta boutique, qui a été développée justement pour être le plus près du sol possible. Puis là, on va dans les boutiques de chaussures où on nous vend des semelles hyper... Je veux juste comprendre, selon ton expertise à toi, pourquoi on recommande finalement d'être le plus proche du sol possible. Puis peut-être que la façon que je l'avance, je suis dans le champ aussi.
Ouais,
mais je veux
je
juste
préciser.
C'est bon, je te donne le flambeau.
Parfait. Fait que, en fait, la clinique du coureur se base sur les données probantes, la science, pour émettre des recommandations. Et malheureusement, ça clash souvent avec ce que le marketing nous amène. Le marketing, c'est pas très compliqué. On fait une nouvelle chaussure, on intègre une technologie, on n'a pas besoin de faire de science. On fait croire aux gens que ça va fonctionner pour réduire les blessures, pour aller plus vite, pour faire n'importe quoi. On a des exemples nombreux qui sont les super amortis, les plaques de carbone, les chocs, les air, etc. Il y a toutes sortes de trucs. C'est du marketing et malheureusement, non seulement c'est pas démontré, mais quand on intègre ça au filtre de la science, on réalise en fin de compte que non seulement c'est de la bullshit, mais que c'est peut-être même plutôt dommageable. OK? Donc là, la clinique du coureur, n'ayant pas sa langue dans sa poche, parce qu'une des choses qu'on fait en fin de compte, c'est qu'on démolit des fausses croyances.
On dit la vérité, disons. On dit les vraies affaires.
Fait que là, ce que ça fait, en fin de compte, c'est que il y a eu, à un moment donné, une prise de conscience sur le fait que les compagnies nous exposent des souliers qui sont inappropriés et surtout un marketing qui nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies.
Okay.
C'est clair de façon générale, mais après ça, les recommandations qui en découlent sont un peu différentes de ce que la science nous met parce qu'on est pris avec une population qui est déjà adaptée et habituée à des grosses chaussures avec de l'amorti. Mmh. Et donc, nos recommandations pour les chaussures de course, que je vais être très, très simple, c'est si tu as des habitudes, tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, change pas tes habitudes. Mmh. Okay, même si elles ne sont pas nécessairement bonnes. Et puis, par contre, si tu es un débutant, donc Réjean, il commence lundi la course à pied, parce que là, il marche, mais là, il dit finalement, avec tout ce que Blaise a dit, oui, je pense que je peux commencer, parce que même avec l'arthrose de genou, on fait courir les coureurs. Même avec l'arthrose multi-étagée, discopathie, lombaire, on fait courir les coureurs, mais de façon très graduelle et progressive. Et là, je vais recommander à Réjean, vu qu'il est un débutant, d'avoir des chaussures très près du sol, plutôt minimalistes, qui vont amener chez lui des techniques de course plus protectrices. Il va courir plus léger, il va faire moins de bruit, il va moins cogner le sol s'il est plus proche du pied nu. Et toute cette histoire-là pour l'adulte, c'est encore plus vrai pour l'enfant. Et le problème pour l'enfant, c'est qu'il n'existait même pas de chaussures de qualité, accessible, avec près du sol, au Québec, entre autres. Et on a dit, on est tanné, on va en faire une. Fait qu'on a produit une chaussure qui est un projet purement philanthropique parce que tous les bénéfices de ces chaussures-là vont dans un fonds philanthropique. Présentement, on est plus en perte qu'en bénéfice, mais bon. Et on a produit 2500 paires de chaussures, puis on les vend un peu partout au Québec, en France, en Italie, en Espagne. Et en fin de compte, c'est des chaussures qui sont près du sol, qui respectent la forme du pied de l'enfant et qui vont être meilleures pour le développement de l'enfant. Le problème, encore une fois, c'est que là, on a une chaussure qu'on a produite en petite quantité, donc elle nous coûte quand même plus cher. Mais on arrive à la détailler à un prix le plus bas possible. Je pense qu'on est à 40$ là, plus shipping. Et en fin de compte, cette chaussure-là, tous les enfants devraient avoir ce genre de chaussures-là. Il ne faudrait pas qu'on ait des chaussures maximalistes, talons surélevés, rigides, qui ne respectent pas la forme du pied. On est en train de faire une génération qui va avoir des problèmes biomécaniques plus tard et des problèmes de pied à venir.
Et pourquoi ce n'est pas le cas?
C'est une très bonne question.
Parce que, écoute, je t'écoute, puis moi, je te mettrais sur un panneau avec le même message, puis demain matin, t'en vas 100 000. Là.
Parce que les lois du marketing, en fin de compte, ne tiennent pas compte de ce qui est bon pour la santé. En fait, on est capable de vendre des cigarettes, on est capable de vendre du Coca-Cola, on est capable de vendre plein de choses. Et on a fait une norme de la chaussure sur aussi ce que nous, on trouve à l'œil acceptable, beau. Donc, une chaussure, maintenant, ce qui est beau, c'est une chaussure qui est grosse, qui est surélevée. On a toujours des talons en dessous de nos chaussures qui sont plus élevés que l'avant-pied, mais on n'a aucune idée pourquoi. Au niveau médical, il n'y a aucune raison. On ne sait pas. Et en fin de compte, le courant s'est fait et c'est un mélange entre on crée des tendances et on répond aux besoins du consommateur. Quand je dis besoin, là, c'est le désir du consommateur.
Oui, c'est pas le besoin physique.
Le rose est à la mode, nos chaussures vont aller vers le rose. T'sais. Puis à chaque année, les compagnies essayent d'innover.
C'est pas un pet, en passant.
mais à tout fois. Chaise qui craque.
Oui,
là.
Mais à tout fois que je bouge, ça fait des drôles de bruit. Puis là, je me dis tout le temps, ils vont penser que je. Non, mais c'est vraiment. il est plus de classe que ça, là. Ça sentirait pour de ça. Non, mais le son est pareil. Je sais pas si tu l'as entendu.
Oui, je l'ai entendu, mais là, j'osais rien dire.
Je le connais pas, Réjean, assez pour savoir. Il pète-tu pas dans ses bottes?
Non, c'est juste quand tu bouges.
Ça n'a pas de bon sens. Ça fait deux fois, ça fait...
Mais moi, ça me fascine. Tu sais, on parle de marketing, mais tu sais, t'as une crédibilité, t'es une sommité dans ton industrie au niveau du monde entier. Tu nous dis des choses aujourd'hui dans la plus grande simplicité qui sont des faits que je considère de base, là, tu sais, par rapport, tu parlais de la morphologie du pied de l'enfant. Moi, comme parent, j'aurais aimé connaître de une personne comme toi, ce genre d'informations-là, puis j'aurais été un ambassadeur, une ambassadrice de ce genre de message-là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, la santé, c'est la base de tout. Tu prônes la santé dans tout l'exercice de tes fonctions. Puis c'est la première fois que j'entends le propos que tu viens de tenir. Moi, je trouve ça fascinant.
Donc, on est dans un problème d'éducation générale.
Et de marketing.
Nous, et de marketing. Le marketing, on peut pas, il faut faire avec. Hein? Fait qu'on est sur les mêmes canaux. Fait qu'il faut qu'on utilise les mêmes canaux puis qu'on essaye de faire un contre-message puis d'essayer d'éduquer les gens. On a pris la Clinique du coureur, la vision d'éduquer les professionnels qui vont éduquer les gens parce qu'on a formé des milliers et des milliers de professionnels à travers le monde qui, eux, continuent d'éduquer d'autres personnes. Mais c'est une goutte dans l'océan comparée aux géants du marketing, des marques de chaussures, entre autres, qui ont des budgets pharaoniques pour essayer de promouvoir leur nouvelle technologie qui sert à rien et qui est de la bullshit. Mais c'est la réalité. Et en fin de compte, ben, on se bat un peu comme ça, contre ça. Mais effectivement, c'est un problème d'éducation. Et c'est notre mission à la Clinique du coureur d'essayer d'éduquer le plus possible la population et les gens aux bonnes pratiques sur la chaussure, la course à pied, etc.
Mais bravo. Moi, je suis une ambassadrice et une fan.
Oui. Bien là, à ce temps, quand on va dire « Bonjour, vous êtes dans la jungle des affaires, présenté par la Clinique du coureur. » Vous connaissez pas ça, la Clinique du coureur? Hey, on va vous en parler, nous autres, la Clinique du coureur. Non, mais c'est le fun. Parce que toutes les entrepreneurs... Toutes, ouais, ben oui. Oui, ça m'arrive, ça, des fois. Toutes, hein, toutes.
Tu généralises?
Tous les entrepreneurs, et toutes aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, devraient courir. Devraient, en tout cas, bouger.
Clairement, non, mais OK.
On est jasé avec
Pierre Lavoie. J'ai un biais parce que j'aime la course, bien évidemment, mais si tu veux être performant comme entrepreneur, il faut que tu sois en santé.
Ben s'entends-tu, là,
la charge que ça va te demander? Moi, c'est mes meilleures soupapes, là.
Ça coûte rien, la course.
En plus, et moi, c'est mes meilleurs moments créatifs aussi. C'est-à-dire que quand je vais courir, là souvent où j'ai toute l'idéation Et quand tu reviens, t'as un 30 minutes, ton cerveau est bien oxygéné, t'as produit des cannabinoïdes.
Ben oui.
Et puis là, c'est parti, t'es comme créatif et là...
Comment qu'ils appellent ça? L'endorphine.
L'endorphine,
ouais. Tout ce qui s'en va dans la hine, là.
Ouais.
Non, mais quand on rit, les muscles du visage, là.
Ouais,
les muscles somatiques, ça dégage l'endorphine.
Mm-hmm.
C'est vrai, ça?
J'en doute même pas.
OK, parce que là, t'as l'air à passer, je fais des niaiseries. Là.
Non, pas pantoute, au contraire. Non, je dis juste que la prémisse de la santé, ça passe par l'activité physique, l'alimentation, la quantité d'eau qu'on boit, etc. C'est une somme de...
Il n'y a pas le choix de bouger, vierge.
Il y a le choix de ne pas être en santé. C'est juste que probablement que sa longévité d'entrepreneur va être raccourcie. T'sais, on dit que la course à pied ajoute des années à notre vie, mais surtout de la vie à nos années. En fait...
J'aime ça. Répète ça. C'est bon, j'aime ça. En fait, non, mais on va la prendre en loupe, hein, Fred?
Alors, courir ajoute des années à votre vie, mais surtout de la vie à vos années.
Wow, en j'adore. Fait,
T'es plus pimpant, t'as plus d'énergie, t'es
beaucoup plus productif, plus de capacité.
T'es bien plus vivant.
C'est beau, ça, j'aime ça, cette phrase-là.
Belle phrase, on va la garder.
Je vais l'emprunter.
Oui, on va l'emprunter.
Puis je sais que Blaise, tu donnes des conférences aussi sur plein de sujets qui touchent la course à pied.
Oui.
Laquelle est la plus... tu sais, si je commence par une, laquelle tu me recommandes?
L'entreprise qui veut t'engager comme conférencier, il pense à quoi, là?
Oui. Fait que la Clinique du coureur donne des formations pour les professionnels de la santé, mais donne aussi des conférences grand public où la semaine prochaine, je vais dans un cabinet d'avocats à Montréal et je donne une conférence, en fin de compte. Moi, quand je donne des conférences, là, tout s'en va dans le fonds philanthropique de la Clinique du coureur. Moi, je vis avec la physio, avec mes cours. Tout ce qui est conférence, en totalité, ça s'en va dans un fonds philanthropique et je donne des conférences en entreprise. Fait qu'on a Météréalité en course à pied qui est animée, qui est cool. Courir vite avec plaisir sans se blesser. Et puis après ça, il y a deux sur-mesures qu'on fait aussi. Et en gros, et là, ça fait quand même plusieurs fois que je donne des petites conférences à des entrepreneurs sur l'entreprise affranchie, les gouvernances particulières qu'on a à la Clinique du coureur et à PCN. Et j'avoue que ça me plaît bien parce que, en fin de compte, l'entrepreneuriat anime quand même... je dirais 2-3 jours par semaine maintenant de mon temps, tu sais, où on gère plein de choses au niveau des entreprises. Fait que Fait que trouver des solutions à des problèmes, c'est quelque chose qui m'anime. Puis, bien évidemment, on a des manières particulières de prendre des décisions.
Qui implique plusieurs personnes dans l'organisation selon les compétences, l'expertise.
Exactement. Mais tu sais, on a des processus établis, en fin de compte, pour comment on prend une décision dans une entreprise où il n'y a pas de patron. Fait qu'on prend des décisions par consentement, de façon consultative. On a tout un... Chaque fois qu'on prend une décision, on se réfère au bien commun, qui est le client satisfait, l'employé heureux et l'entreprise pérenne. Donc, ça anime un peu aussi ce qu'on fait. Fait qu'on a plein de processus. On a mis en place, on a gagné d'ailleurs un prix avec le Manifeste du bonheur à la Clinique du coureur sur justement l'ADN de l'organisation, comment on gère à l'intérieur de notre entreprise. Fait que c'est tous des outils qu'on peut retrouver sur entrepriseaffranchie.com et que ben, je donne des conférences là-dessus aussi à des entrepreneurs. Et,
Dans le fond, ça parle moins de physiothérapie puis d'entraînement. C'est ouais. plus en général au niveau affaires. C'est des Exactement. Outils. Des outils pour les entrepreneurs.
Exactement. Sur l'entreprise affranchie, oui. Après ça, moi, je donne aussi des conférences plus course à pied. Et là, je m'adresse à des entreprises qui ont envie de mobiliser leurs gens, à les gens qui constituent l'entreprise, à faire du sport. Mmh. Et ben, on les motive un peu, puis je leur donne des trucs, puis je leur dis comment se chausser, puis comment courir, puis comment quantifier le stress mécanique pour ne pas se blesser. Et ça aussi, c'est des conférences qu'on donne à l'entreprise qui sont populaires.
Wow! C'est le fun, parce que dans le fond, tu as beaucoup de... On va dire des branches à ton arbre.
Ouais. Des cordes à ton arbre.
Ouais, oui, mais aussi, moi, je voulais dire des branches.
Ah oui,
des
on chapeaux est dans la jungle.
On est dans la jungle.
Des chapeaux.
Mais non, mais c'est bon.
Est-ce que... Hey, là, j'allais partir sur une chire, mais je vais quand
il
même
aller... Il reste encore 6 minutes.
Ben, je vais aller au bout de mon idée. Est-ce que tu considères quelqu'un... Tu sais, on parle beaucoup de douance dans ces années-ci, justement, là, par rapport à des capacités... Des gens, tu sais, est-ce que tu considères que tu es dans cette forme de douance-là, justement, dans cette multi-capacité-là?
Absolument pas. Et je connais, tu sais, quand tu étudies au cégep puis que tu vas aller en physio, ben il faut que tu aies plus que 90 %. Moi, je suis un travailleur. En fin de compte, moi, j'ai été encadré, il y avait plein de gens autour de moi qui avaient des réelles douances. Moi, c'est pas du tout ça. Je suis un développement intellectuel tardif. J'ai toujours évolué, mais j'avais plus de difficultés à l'école quand j'étais plus jeune. Puis c'est plus tard que je me suis développé. Et j'ai plus un intérêt à toujours grandir puis à toujours faire quelque chose puis à stimuler mon intellect, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai des idées, puis je suis un peu plus créatif, je dirais, mais absolument pas de douance, pas du tout. Même pas TDAH, même pas...
Non.
Non, non, tout à fait normal.
Bien, je trouve ça extraordinaire que tu le présentes de cette façon-là, parce que moi, ce que j'entends, ce que je vois aujourd'hui de ton parcours, c'est que tout est possible, puis on peut être inspirant et inspiré dans toutes les sphères de notre vie. C'est vraiment avec ça là, que qui monte en moi là, à l'instant de t'écouter, de regarder toutes les réalisations. Puis, il y a Merci. Un alignement. T'sais, tout est cohérent dans ce que tu fais et aligné.
Merci. Effectivement, j'ai un désir d'être cohérent dans ma vie. Puis, tu sais, je pense qu'on l'est tous un peu. Mmh. Puis, même si c'est difficile d'être toujours cohérent avec tout, mais il y a des valeurs qui m'animent. Il y a une raison d'être que je me connais. En faisant mon X à chaque année, je ne me suis pas non plus perdu dans un moule social qui nous amène à quelque part où il faut... avoir beaucoup d'amis Facebook, une belle voiture, puis etc. T'sais, moi, j'ai toujours défini ma vie autour de ce que j'étais vraiment. Et je pense que ça m'a préservé d'une crise de la quarantaine. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien à faire aussi comme entrepreneur, parce qu'on se laisse facilement emporter par l'environnement, en fin de compte, qui nous amène à des places qui ne sont pas nous. T'sais, moi, je ne me réveillerais pas un matin en me disant « Blaise, t'es pas dans ta vie, là. T'sais, ma vie, je l'ai choisie, puis je la choisis à chaque année, puis à chaque année, je refais mon X et je décide où je m'en vais pour, comme tu dis, être cohérent. Fait que oui, effectivement. J'espère.
Hey, faut que tu sois enseignant à l'école d'entrepreneurship de Beauce.
Ah, ça, c'est une belle école, hein? C'est
Moi, j'ai fait, je suis graduée ouais. du programme élite là-bas, puis
ouais.
t'as tout ce qu'il faut pour venir. Bon,
c'est parce qu'ils connaissent peut-être pas, parce que s'ils connaissaient, tabarouette. Appelle Isabelle, dis que c'est régent.
OK.
Non, mais c'est ce qu'on vient chercher comme entrepreneur.
Ben oui.
C'est cette flamme-là, ce qui nous anime. Puis moi, je repars aujourd'hui avec la cohérence. La cohérence, tu sais, dans l'alignement de l'ensemble de tes sphères, tout touche au niveau de la santé physique du coureur, l'alignement. Tu sais, tu t'es pas éparpillé dans un million d'affaires, tu es resté cohérent avec ta passion, avec le message, puis c'est ce qui fait qu'il est de plus en plus puissant, puis qu'on réussit souvent à mobiliser des gens à l'international puis d'autres experts parce qu'on devient une sommité dans un sujet très, très niché, très précis.
C'est ça.
Puis dans l'entrepreneuriat, souvent, on a tendance à s'étourdir.
Les généralistes.
Bien, généraliste, tu prends le passé à gratte trop large. Alors que là, tu as une mission, un élément, mais qui a tellement de sphères possibles autour. Puis tu as parlé de philanthropie. Je trouve ça beau qu'à un jeune âge, que tu sois capable déjà...
35 ans.
Bien, c'est ça exactement que je disais tantôt. Mais même si on inversait le chiffre, ce que je veux dire par là, c'est d'avoir déjà cette conscience-là sociale de faire la différence dans la communauté de quelque façon que ce soit, puis de redonner au suivant. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, tout ce qu'ils gagnent, c'est dans le portefeuille, puis moi. Alors qu'entreprise affranchie, on est là pour la redistribution, tu sais, que tout le monde y trouve son compte. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Merci.
Ben, écoute...
Je sais pas quoi dire.
Ben, moi non plus. Je suis comme... Oh, on est suspendu à tes lèvres.
Oh, my God.
Caro, t'es hot.
Ah, ben, en tout cas...
Regarde, en plus, le temps... Merci, Caro. Regarde, c'est hot,
merci,
en plus.
Merci, Blaise, parce que...
On va laisser la parole de la fin à Blaise.
Ah, ouais, tellement.
Il reste 44 secondes. On a le goût de te laisser le mot de la fin, parce que, écoute, Caro, elle est hot, hein?
Ouais. Vraiment, écoute, 30 secondes, qu'est-ce que j'ai à dire? Plus rien. C'était vraiment cool. C'était une belle expérience. C'était le fun de jaser avec vous. Caro, il faut que tu remplaces Réjean, là.
Ben c'est oui.
Comme,
hey, moi, je veux prendre ma retraite.
Bonne animatrice, là.
Hey, tu sais, Tarzan, il y a toujours une Jane à côté.
Ouais,
hein?
Ouais, écoute, si je suis cette Jane aujourd'hui, c'est parfait.
Mais non, c'était une belle expérience. Merci énormément. Moi, écoute, si jamais on a envie de récidiver à un moment donné, je suis disponible pour jaser de plein d'affaires, d'aller plus en approfondir, peut-être sur l'entreprise affranchie. Il y a vraiment plein de choses là-dedans qui sont riches pour les entrepreneurs, entre autres.
Mais tu sais, dans un avenir approché, là, 2024, je te dirais premier trimestre, là, on veut lancer un programme de partenariat.
Okay.
Avec, on attendait d'être rendu à 500 entreprises, c'est-à-dire 500
entrepreneurs.
Ouais. Mais c'est presque, il y en a quelques-uns qui sont venus deux fois, mais pas beaucoup. Je te dirais, on a au moins 535 personnes peut-être.
Ouais.
Pour lancer un programme de partenariat.
Ouais.
Parce qu'on a le micro, on a l'audience, alors peut-être que nos messages, des fois, peuvent se promener.
Non, puis les enjeux entrepreneuriaux, peu importe la nature de notre entreprise, on a tous les mêmes enjeux.
Puis la santé, c'est la base.
Ouais.
Parce qu'on en connaît des entrepreneurs qui font fortune, mais à un moment donné, quand la santé arrête, c'est fini. Vous vous souvenez qu'est-ce que lui, là, Jobs, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a dit sur son lit de mort?
J'ai lu ça.
Oui.
Effectivement.
Belle phrase. Il dit, tu peux payer plein de gens pour travailler pour toi. Mais tu ne peux pas payer personne pour être malade pour toi. Alors, tu sais, écoutez ce que Blaise vous a dit aujourd'hui, tout le monde, dans la jungle des affaires. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, Réjean.
Merci, Caro.
Hey,
merci,
ça a été un plaisir.
Ben oui, je vais t'envoyer une facture, là, ça continue. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.